Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Le mot rouage est d'ailleurs plus justifié que jamais dans cette émission puisque nous allons parler de machines et de machines intelligentes. Avec un mot qui fait parfois rêver beaucoup d'industriels, de scientifiques, de chercheurs et cauchemarder, suppose-t-on, beaucoup d'ouvriers, ce mot c'est robot. Les robots ont en effet commencé leur entrée dans le monde moderne. Au Japon, ils sont déjà employés pour accueillir les clients et les orienter dans certains grands magasins. En Allemagne, en Corée du Sud et ailleurs, ils sont dans les usines. Alors qu'est-ce qu'un robot? Où en est-on de leur emploi dans l'industrie mondiale? Quel est le marché? Quelle est la nature de la menace pour l'emploi salarié? Telles sont quelques-unes des questions que je vais poser aux trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Jean Tournou.
Bonjour.
Jean Tournou, vous êtes le délégué général du CIMOP, le syndicat des machines et technologies de production. Qui ce syndicat regroupe-t-il exactement et qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme un peu barbare, le CIMOP ?
Le CIMOP, c'est donc une organisation professionnelle avec des industriels qui créent les solutions industrielles en termes d'équipement. Donc c'est les machines. Pour être complet, pour faire tourner une usine, il faut des machines. Ensuite, il faut des automatismes. Donc ça, c'est une autre organisation professionnelle qui s'en occupe. Et puis, il faut du numérique pour mettre tout ça en œuvre.
Et puis, accessoirement, il faut des hommes, non ?
Et naturellement. Mais ça, ils sont pas représentés par nous. Mais c'est essentiel. Hein, pour faire tourner des usines, on sait qu'il faut des hommes.
Avec nous également, Pierre-Noël Giraud. Pierre-Noël Giraud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes polytechnicien, ingénieur des mines, professeur d'économie à l'École des mines de Paris. Vous enseignez également à l'Université Paris-Dauphine. Vous me dites si je me trompe. Et vous venez de publier aux éditions de La Découverte une somme de 500 pages intitulée sobrement « Principes d'économie ». C'est en quelque sorte une introduction à l'économie. Est-ce que les robots ont une place dans ce livre? Les robots qui nous occupent aujourd'hui.
Oui, absolument. Et la question de savoir si ces robots vont engendrer du chômage ou de l'inutilité pour certains hommes est en effet traité dans ce livre.
Alors, l'inutilité, c'est le thème de votre précédent livre, L'homme inutile, n'est-ce pas ?
Oui, c'est ça. Oui. J'y mettais l'accent sur une forme particulière d'inégalité qui est que la révolution numérique dont on va parler, la robotisation, mais aussi et surtout la globalisation, rejette aujourd'hui des hommes de plus en plus nombreux dans des trappes où ils sont tout simplement inutiles économiquement, bien sûr, à la société.
Je termine ce tour de table par vous, Moundir Rachidi, bonjour.
Bonjour.
Moundir Rachidi, vous êtes directeur associé au Boston Consulting Group. Qu'est-ce que c'est que le Boston Consulting Group ?
C'est un groupe de conseil présent au niveau mondial qui a pour objectif d'aider les entreprises à améliorer leur performance, donc améliorer leur productivité ou leur flexibilité. Et ça passe par l'aide à la définition de leur stratégie industrielle jusqu'à l'exécution. Et je fais partie d'une nouvelle génération d'ailleurs de consultants. C'est une génération de consultants de faiseurs, c'est-à-dire on a la main un peu dans le cambouis, on ne faisons pas que du papier, mais nous faisons aussi de l'exécution sur le terrain avec nos clients.
Boston Consulting Group, parce qu'il est né à Boston ?
Parce qu'il est né tout à fait à Boston, c'était un groupe qui a démarré par de la stratégie, puis petit à petit qui fait de l'exécution.
Au cours de cette émission, bien sûr, des reportages, comme d'habitude, nous irons rejoindre Heike Schmidt à Pékin en fin d'émission, Guilhem Deltaï à Jérusalem et Ariane Gaffuri dans la banlieue parisienne. On va commencer par une question de base dans cette émission, apparemment très simple. De quoi est-ce qu'on parle ? Un robot, qu'est-ce que c'est, Moundir Rachidi ?
C'est un outil qui va aider des hommes et des femmes à exécuter leurs tâches de manière plus efficace, de manière plus ergonomique, plus agile, plus rapide, et qui va permettre à des gens qui ne pouvaient pas hier accéder à l'industrie à y accéder demain. On connaît tous l'industrie comme un métier d'homme jeune, d'homme robuste, un métier répétitif. Tout ça est amené à changer, va être balayé par cette nouvelle révolution industrielle amenée par ces nouvelles technologies, les robots.
Jean Tournou, vous êtes d'accord avec cette définition ? Qu'est-ce que c'est un robot pour vous ?
Oui, je préciserai qu'un robot, c'est une des clés de l'automatisme aussi. Et donc, il faut pas avoir peur de l'automatisme, hein, parce que l'automatisme, c'est ça qui génère la productivité. Et donc, on doit envisager les processus industriels en les automatisant, mais pour les piloter, qu'est-ce qu'il faut ? De la compétence, et donc des hommes.
Mais un robot, c'est un humanoïde, c'est une machine qui ressemble aux hommes ou aux femmes, aux êtres humains, ou est-ce que c'est un bras articulé ? Qu'est-ce que c'est ?
Ben, ça dépend dans quel contexte on le met. Si vous prenez un robot de soudage dans l'industrie automobile, c'est jamais qu'un outil en tant que tel. Si vous mettez par contre un robot pour vous accueillir un guichet d'une banque, ah ben alors là, vous trouvez qu'il a plus une petite tête de robot qui vous ressemble. Donc ça va dépendre de qu'est-ce qu'on veut faire avec le robot, quel service on attend de lui.
Pierre-Noël Giraud, vous, votre définition du robot, comment la voyez-vous?
Je crois qu'on est d'accord sur un mot, c'est outil. Finalement, un robot, c'est jamais que le prolongement du premier silex taillé. Il n'y a pas de différence qualitative entre un outil au sens ancien et un robot. Ce qui est essentiel, c'est de comprendre que le robot, étant un outil, démultiplie les capacités de l'homme, mais ne peut jamais le remplacer, au moins jusqu'à présent.
Mais pourtant, quand un robot accueille un client à un guichet, il remplace l'homme ou la femme.
Oui, mais il faut quelqu'un pour fabriquer le robot, pour programmer le robot, pour surveiller le robot. Donc la position de l'homme dans le service rendu qui est l'accueil du client, la position de l'homme humain se déplace, mais elle n'est pas remplacée par la machine. C'est un couple homme-machine qui rend le service qui était auparavant rendu par l'homme seul.
On dirait, Chili, vous, quand vous consultez l'entreprise, vous lui dites pas, ben, mettez les robots, ça ira mieux.
Non, ça dépend des besoins, ça dépend des types d'industries, donc on essaie d'adapter, parce que les robots ne peuvent pas remplacer, ne peuvent pas se mettre à tous les types de postes de travail. Puis il y a des robots, effectivement, qui vont prendre des tâches très compliquées ou très répétitives sur des pièces lourdes, par exemple, comme on le voit dans l'industrie automobile, on le voyait dans le passé, dans les grandes usines. Mais maintenant, les robots sont là aussi pour aider des personnes pas nécessairement très costauds physiquement à assurer des tâches un peu plus compliquées. Donc, voilà, par exemple, dans le centre qu'on a au BCG...
Dont on parlera dans la deuxième partie de l'émission.
Voilà, apporter des pièces de 14, 15 kilos que d'habitude on portait à la main. Maintenant, vous pouvez avoir un robot à côté de l'opérateur. Le robot va tendre la pièce à l'opérateur pour qu'il puisse l'assembler tranquillement.
Mais quelle est la différence entre robotisation et automatisation, Jean Tournoux?
Fondamentalement, il n'y en a pas. On parle du même sujet. Comme on dit, c'est véritablement là un outil de performance industrielle, le robot. Mais fondamentalement, ils adressent la même question. Il s'agit de rendre les processus plus performants, en supprimant d'ailleurs, au passage, toutes les tâches les plus pénibles.
Mais par exemple, quand on voit d'immenses chaînes d'embouteillage sans intervention humaine, c'est déjà un robot. Quand une machine met une capsule sur une bouteille ou l'étiquette, c'est déjà un robot.
On appelle plus ça des processus automatiques, puisque le robot, c'est pour ça qu'on l'identifie comme ça, c'est une sorte... Il y a une représentation humaine dans la mesure où il a un bras qui se déplace. Mais c'est là, il assure la même fonctionnalité qu'une machine d'embouteillage, c'est-à-dire il rend quelque chose plus automatique sans intervention humaine directe. Mais c'est le même concept. La robotisation, ça revient à automatiser les processus, quels qu'ils soient, à les rendre plus performants.
Pierre-Noël Giraud, on est plus performant avec un robot qu'avec une machine programmable de base?
Non, mais c'est la même chose. Robot, machine, programmable, de base. La question de savoir, c'est est-ce
qu'on
est plus performant...
Oui, vous faisiez l'analogie avec le silex, alors.
Est-ce qu'on est plus performant avec un outil que sans? Ben oui, bien sûr, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on développe l'outil. Tout ça est fait pour économiser du travail humain, à la fin. Tout ça est fait pour économiser du travail et rendre le travail moins pénible et mettre au service du travail humain, par exemple, les ressources énergétiques. Et la première et la deuxième révolution industrielle, ça a été la maîtrise progressive grâce à des machines encore très peu automatisées. C'est pour ça qu'on ne parlait pas de robots, mais des machines. Et puis ensuite, la deuxième, enfin celle en cours, c'est la maîtrise de l'information aussi avec des machines. Et évidemment, un robot maintenant, il faut bien voir que c'est toujours un robot connecté. Hein, un robot, c'est plus un objet qui travaille tout seul dans son coin après avoir été programmé. De plus en plus, les robots sont connectés entre eux, reçoivent des informations de ce qui se passe chez les autres, etc. Et donc, le robot, c'est une grande machine tentaculaire, en vérité, dans l'industrie, hein, dans la fabrication. Et je voulais dire aussi que là, on parle, parce que nous avons des spécialistes de robots industriels, mais il y a aussi l'apparition, et pour le grand public, c'est souvent ça, du robot humanoïde qui fait le ménage à votre place, qui fait la cuisine, qui vous accueille dans un magasin. Et là, je voudrais dire une chose, et rappeler que quand on a voulu faire les premiers avions, on a cherché à imiter les oiseaux. Maintenant, quand on veut faire quelqu'un qui reçoit dans un magasin, ben, on a tendance à imiter l'homme. Mais je pense que cette humanisation dans la forme du robot va disparaître au profit des fonctionnalités le plus simplement possible.
Alors, on va aller à la rencontre de quelques robots en Israël, précisément, qui est un des pays en pointe dans la recherche dans ce secteur. Avancée reconnue même par les Chinois, qui ont signé en fin d'année dernière un accord avec l'association opérations de robotique israélienne, les Chinois vont débourser 20 millions de dollars dans l'une des principales universités du pays, la Technion, l'Institut israélien de technologie. De nombreux chercheurs élaborent des robots dans les domaines de la défense, de la médecine ou encore de l'agriculture. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Guilhem Deltel.
Amir Degani ouvre le hangar situé en contrebas de son laboratoire. Sur les murs, faux charrues et autres outils en bois sont accrochés.
These are probably 100-150 years old.
Ceux-là ont probablement 100-150 ans. Certains sont même peut-être plus vieux que ça. Nous avons notre petit musée ici.
Our little museum inside here.
Des vestiges du passé, souvenirs précieux pour ce chercheur qui travaille sur l'avenir, mais la pièce dont le chef du laboratoire de robotique civile, environnementale et agricole est le plus fier se trouve sous les bâches plastiques.
C'est notre grand robot. Il est similaire au plus petit, mais celui-là peut porter une très grande charge. Et actuellement, nous l'utilisons pour travailler sur la navigation en milieu ouvert, non structuré. Le plus intéressant pour nous, c'est dans le secteur agricole, à l'intérieur des vergers.
Faire se déplacer des robots dans un verger, un environnement plein d'obstacles, c'est encore un défi aujourd'hui, souligne Amir Degani. Défi d'autant plus grand que la recherche dans le domaine agricole bénéficie de moins de financement que la recherche médicale ou militaire. Mais ce professeur assistant est convaincu que son travail a de l'avenir.
It's coming from the farmers now.
Cela vient maintenant des agriculteurs qui nous disent qu'ils ont besoin d'une alternative. Et cela vient aussi du marché, des industriels. Donc nous en avons besoin, il n'y a pas de doute. Mais la plupart des difficultés sont compliquées à résoudre. Et nous avons encore un long chemin avant de voir de réels robots fonctionner sur la durée et de la manière dont nous voulons qu'ils fonctionnent.
Un industriel, Amir Degani en a rencontré un en la personne d'Avika Kahani. Cet ancien agriculteur a fondé FFR, Fresh Fruit Robotics, et travaille actuellement sur un robot capable de récolter les fruits. Une machine équipée de 12 bras et pouvant travailler 10 fois plus vite qu'un être humain tout en étant capable de faire des choix.
Tous les dommages que vous pouvez voir sur le fruit, sa taille, sa couleur, si c'est devant le capteur, il décidera s'il est commercialisable ou non. Ou même plus sophistiqué, si le fruit est derrière une branche, le robot va renoncer à le récolter pour gagner du temps et être plus efficace.
Ce robot est censé récolter 80 à 90% de la production d'un verger, mais en matière agricole, demain n'est pas encore aujourd'hui. Il faudra encore au moins 18 mois à FFR avant de pouvoir mettre son robot sur le marché.
Un reportage signé Guilhem Deltel. Moundir Rachidi, vous voyez, écoutez attentivement ce reportage, vous vous dites, mais ce robot, il nous le faut, pourquoi est-ce qu'on n'a pas là-dessus, qu'est-ce que vous vous dites?
Tous les types de robots peuvent être utiles, ça dépend après du contexte et du besoin qu'on en a en fait. Mais on part toujours d'un besoin, c'est-à-dire c'est un peu, le robot est un outil, donc on ne part pas de l'outil. On n'essaye pas, nous en tant que consultants ou en tant qu'industriels, nous ne cherchons pas à installer un robot pour le plaisir d'installer un robot. Nous cherchons à installer un robot pour améliorer une productivité plus compétitive, et donc du coup, bien sûr, ça a un impact positif sur l'emploi, on y reviendra peut-être plus tard, ou par exemple, on veut être beaucoup plus flexible, donc réagir de manière plus rapide, ou réduire de la pénibilité. Et à ce moment-là, on se pose la question de quel est le meilleur robot dont j'ai besoin. Et effectivement, j'ai la tentation, j'ai envie de tester tout type de robot que je vois sur le marché et de voir en fait qu'est-ce qu'il peut apporter de manière très concrète.
Guilhem Deltel, dans son reportage, évoquait les secteurs de la défense et de la médecine, je crois, en Israël, comme secteur de recherche robotique. Est-ce que ce sont les secteurs où les robots se développent le plus, Jean Tournoux?
Juste un petit retour en arrière sur l'agriculture. Il y a des sociétés, des start-up en France qui travaillent sur ces thématiques, évidemment, puisque dans l'agriculture, on voit qu'il y a notamment pour le ramassage des fruits et autres, ou des légumes, il y a beaucoup de main-d'œuvre. Et donc, il faut adresser cette question.
Il faut évoquer cette question.
Ah oui, et puis, enfin, il y a des entreprises qui proposent déjà des solutions, qui travaillent sur ces sujets, mais il faut adresser la question comment le robot vous suit, de l'autonomie, etc. Et donc, ça existe déjà en France, hein, puisqu'on a une grande puissance agricole, donc il faut qu'on s'en occupe. Et sinon, en termes de secteur, les perspectives, indépendamment de l'industrie, qui reste quand même le plus grand consommateur de robots, on va retrouver le médical. C'est vrai que maintenant, on commence à avoir des solutions robotisées. pour opérer les malades à distance, notamment. Donc là, il y a un potentiel très important. Dans le militaire, alors là, on est plutôt dans les drones. Certaines sociétés réfléchissent à des robots de combat. On voit tous les robots des mineurs. Hein. Donc là, on n'est pas dans la science-fiction, mais on est dans... Ça pose des problèmes éthiques, d'ailleurs, entre parenthèses, hein, ces questions de robots dans un certain nombre de domaines. Mais donc, il y a des champs qui s'ouvrent. Tous les domaines de notre vie peuvent être couverts par les robots, de fait. Hein, parce que les robots, comme on dit, finalement, c'est un outil. Et tout ce qu'on manipule, quelque part, eh bien, on peut se faire assister pour être... moins fatigués, etc. Et notamment beaucoup dans le médical, hein, puisqu'on pense à la société vieillissant, il faut qu'on s'occupe aussi, au-delà des robots d'accueil, hein, ne serait-ce que pour déplacer des malades, là, ça peut être intéressant d'avoir des robots pour traiter ces sujets.
Demain, il n'y aura plus de brancardiers, Pierre-Noël Giraud ?
Il y aura en tout cas plus de... Les gens sur des tracteurs et les moissonneuses-batteuses auront disparu avant les gens aux brancards. Dans l'agriculture, revenons-y, en effet, c'est un champ souvent un peu ignoré de développement de la robotisation considérable. Aujourd'hui, dans une grande ferme en France, il ne devrait plus y avoir quelqu'un sur un tracteur, parce qu'avec la géolocalisation, on peut faire bouger le tracteur absolument comme on veut. Le fermier ne disparaît pas, simplement il est dans sa ferme, derrière une série d'écrans, et devient le pilote d'une centrale nucléaire. Il n'a rien à faire, sauf à surveiller que tout va bien.
Et quels sont les pays qui sont moteurs dans cette recherche robotique ou dans l'installation de robots? Est-ce que la France, je crois, est assez mal placée? Quels sont les pays pilotes?
Je laisse répondre nos amis. Elle n'est pas si mal placée quand même.
Oui, on est plutôt mal placé en termes d'installation de robots dans l'industrie. Mais par contre, on est plutôt assez bien placé en termes de laboratoire de recherche et sur les solutions innovantes. Donc on n'a pas à rougir. La question de la robotique, en fait, c'est une question aussi culturelle. On a touché du doigt cet enjeu. Est-ce que oui ou non, le robot nous relègue à autre chose qui est valorisant ou pas? Donc la réponse est oui et pas non. Mais si on ne répond pas correctement à cette question, on ne peut pas envisager le développement de la robotique. Mais oui, la France a des positions fortes. Hein. Je viens de mentionner des petites sociétés qui s'occupent de l'agriculture, qui travaillent dans le médical, dans le véhicule autonome aussi. Donc dans les activités de service, on commence à marquer des points.
Moundir Rachidi.
Oui, en fait, aujourd'hui, nous dépensons annuellement une dépense de 27 milliards de dollars de robots par an. Nous
serons dans le monde.
Dans le monde. Nous serons en 2025 à 67 milliards, c'est-à-dire dans 10 ans. Donc le marché est énorme. La guerre dans ce domaine-ci, la guerre économique dans ce domaine-ci, elle est féroce. La France n'est pas, et bien sûr est un pays qui avance, mais n'est pas à la bonne vitesse encore. Donc il y a des pays comme l'Allemagne, comme la Corée du Sud, comme les États-Unis, et maintenant énormément la Chine, qui sont beaucoup plus en avance, ou en tout cas qui se développent de manière plus rapide. La France a encore un effort à faire dans le domaine.
Mais est-ce que la France est, comme dans d'autres secteurs industriels, très bon dans la recherche et très mauvais dans le développement de ces innovations?
L'enjeu, de ce qu'on vient d'entendre, c'est que le problème de la France, c'est que nous n'investissons pas assez, notamment dans la partie industrielle. Juste un chiffre, hein, la Chine, c'est 58 000 robots l'année dernière, nous, c'est 3 000. Donc la Chine, il se pose pas de problème. Hein. Soi-disant, on nous dit que la Chine, elle a un problème pour employer sa manœuvre. Sauf qu'elle a adressé la question de l'automatisation à travers la robotique, parce qu'elle a bien compris que les réserves de productivité sont là. Donc notre enjeu à nous, en France, c'est de développer la robotique dans tous les processus industriels. Ça, c'est un enjeu fort. Mais ensuite... Je crois qu'à travers tous les différents programmes qui sont lancés, il faut qu'on mette en mouvement le substrat industriel. Et enfin, là, je vais parler juste du CIMOP. Nous, on est à la base d'un petit programme où on aide les entreprises à installer leurs premiers robots. Et pour faire avancer le substrat industriel, pour qu'on démystifie le robot et qu'on considère qu'il a toute sa place dans les processus industriels et qu'il ne remplace pas l'homme, mais il le fait grandir.
Eh bien, nous continuerons cette discussion dans la deuxième partie de cette émission, puisque pour l'instant, nous avons rendez-vous avec un flash d'actualité. À tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Géopolitique.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré aux robots. Trois invités dans ce studio, l'économiste Pierre-Noël Giraud, professeur à l'Université Paris-Dauphine et à Mines Paris-Tech, auteur d'un récent Principe de l'économie publié aux éditions de La Découverte, Jean Tournoux, délégué général du CIMOP, le syndicat des machines et technologies de production, et Mundir Rachidi, directeur associé au sein du Boston Consulting Group. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons vu ce qu'était un robot et dans quels champs économiques et dans quels pays ces machines étaient appelées à se développer rapidement. Est-ce que c'est une nouvelle révolution industrielle et économique qui est en train de se mettre en place, Pierre-Noël Giraud ?
Oui, mais elle est largement en cours. Nous sommes dans le plein de cette vague de robotisation. On peut même dire que dans certains domaines, comme dans l'industrie, là où elle est la plus avancée, on approche une asymptote.
C'est-à-dire du sommet.
Oui, c'est-à-dire du sommet. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de bouleversement considérable, qualitatif, si vous voulez, dans la robotisation. C'est plus dans les domaines qu'on a évoqués tout à l'heure, comme la médecine, plus généralement le service à la personne, que on peut s'attendre à des déploiements. Je vois que mes
non, ils sont pas d'accord.
Ne sont pas d'accord. Non, voilà.
Mundir Rachidi. Je vous intervenez.
J'en parlais hier à l'Académie des technologies avec un industriel qui me disait qu'on s'attendait dans l'industrie à une poursuite de gains de productivité de l'ordre de 2 ou 3% par an, mais pas à une espèce d'accélération, comme si une vague, une nouvelle révolution industrielle nous tombait dessus. Voilà, je voulais simplement dire que nous sommes dedans, au cœur de cette révolution industrielle, et que donc les progrès sont bien engagés, vont se poursuivre sur un certain nombre de tendances variables selon les secteurs, mais la prochaine révolution industrielle, ce sera autre chose. Ce sera les nanotechnologies, c'est-à-dire des robots, mais moléculaires, et ce sera la transformation du vivant. La révolution numérique, on est en plein dedans. Et dans certains domaines, on atteint des asymptotes, des taux d'équipement 100%, des saturations.
Mundir Rachidi, vous n'êtes pas d'accord, hein?
Non, pas d'accord. Parce que on a vu beaucoup de technologies. C'est-à-dire, on connaît les technologies à travers l'Internet, du Facebook, etc. Ces technologies-là ne sont pas encore arrivées dans les usines. Moi, je vous en parle de manière concrète. Lorsqu'on travaille dans les groupes industriels, lorsqu'on définit leur plan d'action pour la mise en place de ces technologies-là et de l'amélioration, on atteint en plan des gains de productivité de 15 à 30% sur des horizons de temps assez rapides, on va dire de 2 ans. Pourquoi ? Parce que ces technologies-là, on ne les voit pas encore. Si vous allez dans une usine de fabrication d'agroalimentaire ou de fabrication d'avions ou de trains, vous ne voyez pas encore les robots dont on est en train de parler. Vous ne voyez pas la réalité augmentée, vous ne voyez pas les cobots, vous ne voyez pas les AGV, les véhicules autoguidés, des choses comme ça. Vous ne les voyez pas. Et elles sont maintenant accessibles. C'est-à-dire le prix est accessible, est en baisse forte. Elles sont faciles d'utilisation et on peut les intégrer, les connecter entre elles. Le fait de les connecter entre elles, c'est ça, cette révolution industrielle. C'est de connecter toutes ces technologies. C'est ça qui permet d'apporter cette productivité de 15 à 30% en fonction des types d'industrie. Mais c'est aussi un autre élément très important. Elles permettent de faire de produire de manière différente. On va sortir des modèles d'usines, de grandes usines. Parce que qu'est-ce qu'on a fait, en fait, dans le passé? On a cherché pour faire de la croissance. On a cherché à faire des économies d'échelle. Comment on a fait des économies d'échelle? Des usines plus grandes, très spécialisés, faisant un ou deux produits, et en gros, on les a bougés dans les pays à bas coût qui étaient prêts à accepter des conditions de travail que nous, on n'accepterait pas. Ça en est fini de ce modèle-ci. C'est-à-dire, ces technologies-là vont permettre aussi de travailler de manière agile, c'est-à-dire faire des produits pour le consommateur, et donc ça va générer d'autres types d'usines qui seront plus proches du consommateur, donc c'est des relocalisations aussi d'emplois, qui seront plus agiles et qui ne vont plus travailler en fabriquant du stock, mais qui vont travailler à l'unité par rapport aux besoins du consommateur. Et ça, je vous en parle par expérience en travaillant avec ces groupes industriels.
J'entends-nous, vous, dans les entreprises qui sont regroupées au sein de votre syndicat, le CIMOP, vous constatez ce que vient d'expliquer Mundir Rachidi ?
Oui, je comprends le fait de dire que dans une certaine mesure, on peut avoir atteint une asymptote, mais en même temps, c'est vrai qu'avec ces nouvelles technologies, et surtout la mise en œuvre de ces nouvelles technologies d'une façon plus connectée, là, on va se donner un nouveau souffle en termes de productivité. Et justement, le robot, mais pas lui tout seul, hein, ce qu'on voit en ce moment, c'est cette capacité à être connecté qui va générer de la productivité. Juste un petit exemple. On a des clients aujourd'hui qui, grâce au robot, et surtout en connectant l'intégralité de leur plan de charge au robot, arrivent à ce que le robot s'occupe de la gestion automatique des outillages et puisse fabriquer des produits différents toutes les heures. Et si le robot n'était pas connecté, bah, ça s'arrêterait. Il faudrait mettre un opérateur pour changer les outillages. Bon, donc on est dans un monde dans lequel on ne peut pas juste parler du robot. On doit parler de son environnement technologique, donc la chaîne numérique dont on vient de parler à l'instant, et puis aussi son environnement humain, c'est-à-dire ceux qui pilotent les processus.
Pierre-Noël Giraud.
Bien, je comprends bien que quelqu'un qui conseille les entreprises pour s'équiper en robots fasse valoir les importants gains de productivité que ceci entraîne, ou que des fabricants de robots soulignent le potentiel qu'ont les robots aujourd'hui. Mais je rappelle une chose. En 87, Solow, un très grand économiste, disait « Les ordinateurs sont partout, sauf dans les statistiques de la productivité », c'est-à-dire dans les chiffres de croissance, dans la productivité. Eh bien, on pourrait dire aujourd'hui, les robots commencent à être partout, sauf dans les statistiques de la productivité, parce que la productivité de secteurs industriels continue de croître, va continuer de croître, en particulier, vous l'avez souligné, grâce à l'Internet des objets qui va permettre la connexion de tous les robots, mais pas de façon tout d'un coup exponentielle, au rythme que nous avons connu, parce que, je le répète, nous sommes au cœur d'un processus qui va continuer, qui a différentes étapes. La prochaine, c'est l'Internet des objets, nous sommes bien d'accord. Les usines plus flexibles, tout ça est tout à fait vrai, mais si on regarde les choses en économiste, donc d'un point de vue d'ensemble, bon, ceci se traduit par une croissance moyenne de la productivité qui est de 2-3%, même si chaque projet individuel, lui, améliore, pour celui qui le met en œuvre, sa productivité de 15-20%, je le crois bien volontiers.
Jean Tournoux ?
Oui, juste quand on parle de productivité 2-3%, de fait, c'est un chiffre énorme. Hein. Ça veut dire qu'en 15 ans, on a divisé les coûts par deux. Donc, c'est vrai que c'est pas la révolution, mais c'est quand même la révolution. C'est-à-dire, pour soutenir encore et toujours cette hausse de la productivité dans les 15 ans qui viennent, ben, il faut bien mettre en œuvre des solutions nouvelles. Hein. Et diviser les coûts par deux, c'est quand même significatif.
Je vous rappelle qu'en sur le territoire français, dans les 20 dernières années, on a produit deux fois plus de voitures avec deux fois moins de personnes. Vous voyez ? Donc, on prolonge. Nous sommes dans ce genre de tendance et ça va se prolonger.
Mounir Rachidi, je vous donne la parole dans un instant, mais pour l'instant, on part à Saclay où une usine pilote a été installée près de Paris, dans la banlieue parisienne. Elle permet d'expérimenter les nouvelles technologies industrielles, robots collaboratifs, impression 3D, réalité augmentée, big data. Ici, il s'agit de fabriquer des scooters, et vous connaissez bien cette usine, Mounir Rachidi, puisque vous en avez dirigé l'installation. Écoutez ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Ariane Gaffuri.
Première étape, le contrôle en amont du châssis du scooter grâce à la réalité augmentée. Une simple tablette suffit. Régis Pajon, directeur industriel du site.
La réalité augmentée est une nouvelle technologie qui va permettre à l'opérateur d'assurer un certain nombre de contrôles en filmant au réel son châssis. Le système va superposer des éléments virtuels sur ce châssis pour que l'opérateur sache exactement à quel endroit il doit regarder pour trouver la pièce qu'il doit contrôler. Ce contrôle permettra par la suite d'éviter des erreurs sur la ligne dont on s'apercevrait en milieu de chaîne.
Moins d'erreurs en amont et un gain de productivité de plus de 20%, c'est ce que promettent ces technologies 4.0. Olivier Scalabre, directeur associé pour BCG, Boston Consulting Group.
Aujourd'hui, ces nouvelles technologies, outre l'impact de productivité, ça permet d'être 50% plus agile, plus flexible. Et donc, ça veut dire que sur une même ligne de production, au même coût et dans les mêmes délais, vous serez capable de faire passer des lots unitaires de produits. Donc, sur cette ligne de production de scooters, aujourd'hui, on peut faire des scooters qui sont customisés à la demande. Et sur la même ligne, on est capable de faire passer des sèches-linges, par exemple.
Autre prouesse, le MES, un système informatique de gestion des processus industriels qui fait le lien entre les commandes et la fabrication d'un produit. Régis Pajon.
Ce système de MES, donc avec ses ordres de fabrication, va être couplé à un système dit RFID. Donc c'est de la radiofréquence qui va envoyer ces informations dans une puce contenue sur le châssis du scooter. Lorsque cette puce est lue à chaque poste, l'opérateur voit s'afficher ses instructions d'assemblage et c'est exactement ce qu'il doit monter.
On voit aussi un robot vert qui est en train de soulever des roues.
Ces robots font partie de la nouvelle génération de robots qu'on appelle des cobots. Ce sont des robots collaboratifs, c'est-à-dire que contrairement aux robots classiques, ils peuvent travailler facilement à côté d'opérateurs en toute sécurité.
Un savoir-faire qui peut s'acquérir facilement, Serge Marangui gère la ligne de production d'assemblage des scooters.
On m'a montré, la technologie nous guide en elle-même, donc en fait, c'est presque la technologie qui nous forme en fait. Vraiment, on est serein en commençant le travail en fait, puisqu'on est auto-guidé directement vers moins d'erreurs, vers une facilité d'exécution de toutes les tâches qui nous sont demandées ici, c'est facile.
La réalité augmentée, la robotique avancée, l'impression 3D, le big data, ces technologies peuvent être exploitées indépendamment ou ensemble dans un seul et même endroit. Olivier Scalabre.
Nos clients eux-mêmes, les grands industriels, sont tous en train de faire des expérimentations, mais en ordre un petit peu dispersé et jamais au même endroit. Et donc là, c'est la première fois qu'on a un lieu intégré, un vrai lieu de production dans lequel on met toutes ces technologies à la disposition de la performance.
Aujourd'hui, l'enjeu est de développer ces nouveaux procédés à grande échelle. L'Allemagne est dans la course et la Chine a une longueur d'avance. Le pays a lancé en 3 mois 40 centres de formation à l'industrie 4.0.
C'était un reportage signé Ariane Gaffiori dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons des robots, de leur rôle dans l'économie mondiale avec 3 invités. Pierre-Noël Giraud, professeur d'économie à Mines Paris Tech à Paris Dauphine. Wundi Rachidi, directeur associé au Boston Consulting Group. Et Jean Tournou, délégué général du CIMOP, le syndicat des machines et technologies de production. Wundi Rachidi, on vous a pas entendu dans ce reportage, on aurait pu parce que c'est vous le maître d'œuvre de cette usine. Vous la baptisez usine du futur, ça veut dire quoi?
C'est une usine qui a pour objectif de prendre de l'avance sur ce que peut faire un industriel dans son environnement au quotidien. Pour un industriel, ses impératifs de production, ne veut pas prendre trop de risques, il a besoin de temps, de personnes formées et compétentes dans ces technologies-là, donc il ne va pas installer toutes les technologies au même endroit tout de suite. Et du coup, c'est une perte de temps. Et c'est une perte de productivité. L'objectif de ce centre-ci, c'est un centre pionnier qui permet à un industriel de se projeter et de se dire, oui, effectivement, j'ai compris ce que peut apporter un ensemble de technologies sur ma performance, que ce soit sur la productivité ou la flexibilité. Donc c'est un centre de découverte, c'est un centre de formation, mais c'est aussi un centre d'expérimentation au service de tous les industriels. Il est impératif de sortir de l'approche qui consiste à dire j'aime pas, ou de l'approche uniquement macroéconomique qui dit est-ce que ça apporte un impact au pays ou pas. Ce qui va apporter un impact au pays, c'est ce qui va apporter un impact aux entreprises, à leur compétitivité, et c'est ça qui va nous aider au final. Donc ce centre a pour objectif d'aider les industriels, notamment français, à aller dans ce sens.
Est-ce qu'il y a d'autres usines du futur ailleurs dans le monde ?
Pas avec un concept aussi avancé, pas aussi unique. Nous avons des partenariats avec quelques universités en Allemagne, donc avec 3 universités, donc l'université d'Aachen, l'université de Kaiserslautern et le Fraunhofer de Stuttgart. Et nous avons des projets, des ambitions similaires à Singapour et plus tard pour d'autres pays.
Jean Tournou, ce projet, il vous fait rêver ?
Il est un peu représentatif de ce qu'offrent les industriels aujourd'hui, à savoir... L'idée centrale, en fait, de l'usine du futur, parce que c'est ça dont il s'agit, l'idée centrale, c'est que le client a changé. Le client, il veut plus de réactivité, plus de flexibilité. Donc, qu'est-ce qu'on met en œuvre en face de lui en termes de processus industriel pour répondre à cette question ?
Mais est-ce que l'objectif, c'est pas finalement surtout de supprimer des emplois, des salariés pour avoir plus de souplesse, moins d'organisation syndicale, moins de salaire, pouvoir travailler jour et nuit ?
Mais le sujet, c'est pas celui-là. Le sujet, c'est d'être plus efficace pour servir le client. Mais évidemment, dans l'industrie, on fait aussi de la performance industrielle. Faut être clair. Quand on parle productivité, ça veut bien dire qu'on va mettre moins d'heures pour fabriquer un produit. Mais de fait, on espère, grâce à ça, surtout vu l'état de l'industrie en France, on espère grâce à ça être plus performant et à développer nos parts à l'international. Donc, il faut arrêter d'opposer.
Mais on parle pas seulement de la France, là. On parle au niveau international.
Oui, mais tout le but de l'automatisation des processus industriels et des nouvelles formes de production, c'est bien ça. On veut chercher de la productivité. Comment on va faire pour se payer la santé ? Il faut bien qu'on fasse des efforts dans un certain nombre de processus industriels. Donc, il ne faut pas du tout opposer ça. On ne veut pas tuer de l'emploi ni rien du tout. On veut simplement dégager des ressources supplémentaires pour adresser les autres besoins de l'humanité. Pour adresser d'ailleurs, pour résoudre.
Pour résoudre ou traiter.
Il ne faut pas oublier que les robots nous ont permis d'accéder, de consommer plus. C'est nous, vous, moi et vos interlocuteurs qui finançons au final les robots. Parce que nous cherchons les meilleurs rapports qualité-prix. Et les meilleurs rapports qualité-prix sont dans les industries ou dans les secteurs ou dans les entreprises les plus productives. Et donc, dans les usines les plus productives, ben, il y a des robots, il y a d'autres types de technologies, notamment des types de technologies nouvelles. Donc, ce n'est pas une question de choix, c'est une question de mise en place et de vitesse.
Pierre-Noël Giraud, est-ce que ça va supprimer les emplois? Est-ce que les robots remplacent l'homme dans le travail quotidien?
Non, mais c'est une question vieille comme l'introduction des métiers à tisser dans la première industrie textile.
Mais c'est beaucoup de gens posent la question.
Bien sûr, mais à juste titre, parce que évidemment, ça supprime les anciens emplois, ça en crée de nouveaux. Bon, je vous signale qu'un sondage récent chez 2000 économistes aux États-Unis à la question est-ce que ça va globalement détruire ou pas des emplois, 50% disaient que ça allait en détruire et 50% que ça allait en créer. Bon, de toute façon, les besoins sont infinis. Après, le secteur tertiaire qui est en cours de robotisation lente, mais c'est quand même ça le grand enjeu. Je pense que dans l'industrie, ça suit son cours. Le secteur tertiaire est en cours de robotisation. Il y a le secteur quaternaire. Et puis, si
qu'est-ce
finalement.
Qu'est-ce que vous appelez le secteur quaternaire?
Le secteur quaternaire, c'est les services à la personne, c'est l'économie collaborative, associative, etc. C'est des choses qui sont beaucoup dans le relationnel, si vous voulez. Des services que les gens se rendent entre eux, comme ça, dans le relationnel, assez peu médiés par des machines, justement. Bon. Voilà. Et puis si, malgré tout ça, il y a toujours pas d'emploi, eh bien, on va réduire le temps de travail, ce qui est aussi une tendance séculaire et finalement une bonne chose. Donc, je veux dire, ce sont des fausses peurs. Ça demande de l'adaptation. Et ça demande de l'adaptation. Deux mots. Formation, évidemment. Tout le monde le sait. Et aussi, flexi-sécurité, parce que les usines sont plus flexibles, il faut que les emplois soient plus flexibles aussi. Et si, pour qu'on, que ce soit accepté et que ce soit une chance, la flexibilité, que ce soit une chance de pouvoir changer de métier, etc., il faut qu'il y ait un système de sécurité adapté à cette nouvelle donne productive.
Voilà. On me dira, Chidi ?
Oui, pour rappel, aujourd'hui, le nombre de tâches automatisées, il est de 10%. Dans 10 ans, il sera de 25%. Donc il y a un potentiel encore énorme de mise en place en fait de ces robots. Donc on a tout un potentiel de croissance qui va aller générer de la productivité en France. Donc et de l'emploi. Le pays, si on compare par rapport à l'Allemagne, l'Allemagne est beaucoup plus robotisée que la France, mais l'Allemagne n'a presque pas de chômage.
Parce qu'elle est plus productive.
Parce que les usines, au lieu de venir en France, elles vont se positionner en Allemagne, qui est un pays plus productif. Mais au final, comme on a plus d'usines, peut-être que par usine, on a moins de personnes. Mais comme on a plus d'usines, ben on a plus d'emplois au final.
Mais tout à l'heure, vous disiez qu'on avait cherché des économies d'échelle, qu'on avait fait des usines plus grandes, qu'on avait délocalisé. Est-ce que cette robotisation, par les gains de productivité qu'elle permet, ne va pas nuire aux pays émergents qui vont se voir supprimer ces usines?
Non, pas du tout. Au BCG, au Boston Consulting Group, on ne le croit pas. Parce que les pays émergents ont un autre type de challenge à relever, ou de défi à relever. Ils doivent maintenant aussi produire pour leur propre consommation. On va en finir avec la Chine et avec cette aberration de produire des produits en Chine pour les faire venir en France ou dans des pays occidentaux. La Chine devra produire pour sa propre production et pour son 1,5 milliard de population. Et idem pour l'Inde. Donc on produira, chaque pays produira pour ses propres besoins.
J'entends nous.
Et puis surtout, on peut dire, par rapport à votre question sur les pays émergents, ce qu'on cherche à faire, en plus de la productivité, et on veut aussi résoudre des problèmes fondamentaux qui sont l'environnement et la consommation d'énergie. Donc la mise en œuvre de ces nouveaux processus et cette nouvelle manière de travailler, c'est pas simplement de gagner de la productivité, hein, c'est de prendre en compte les autres dimensions. Et les pays émergents ont-ils des besoins, oui ou non? Mais ils ont des besoins énormes. En eau, en transport, en santé, en éducation, en produits de mobilité. Donc, le potentiel, en fait, est gigantesque. Le problème, c'est qu'il faut qu'on mette en œuvre des processus qui permettent de rendre des services et des produits à la totalité de l'humanité à des coûts sociaux, économiques et environnementaux bien moindres. Donc, il faut refaire une révolution industrielle. Et c'est ce qu'on est en train de faire.
Vous parliez tout à l'heure de la Chine. Par ailleurs, le marché des robots ne croît aussi rapidement. Vous le disiez, Moundir Rachidi, en 2015, selon la Fédération internationale de la robotique, 75 000 robots industriels y ont été vendus. Ce chiffre devrait doubler en 2 ans. Pour les robots de service, le marché est également en ébullition. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Heike Schmidt à Pékin.
L'étrange bibendum qui tourne en pirouette dans les bureaux de l'entreprise Beijing Kanbot Technology est haut comme trois pommes et fait clignoter ses yeux bleus. Tu t'appelles comment ?
Je m'appelle Xiao Yu, je suis le petit meilleur.
Tu viens d'où ?
Je viens d'une planète très lointaine.
Est-ce que tu sais faire le ménage ?
Non, je ne suis pas ton esclave. Je préfère parler et m'amuser avec toi.
Pour 336 euros, Xiaoyo se vend déjà à 100 000 exemplaires par an, mais ce n'est que le début, prédit son inventeur, Eric Liu.
Après l'époque des smartphones et des tablettes, voici celle du robot de service. Dans 5 ans, il sera totalement intégré dans la famille, comme un frère ou une sœur. Ou bien il remplacera la maman pour raconter une histoire. À terme, il y aura 2, voire 3 robots dans chaque famille.
Les 240 employés adhèrent tous à ce slogan « Un robot pour que votre vie soit meilleure ». Celle des petits, mais aussi des grands, s'enthousiasme Yu Qingzhu, responsable marketing.
Téléguidé par votre smartphone, Xiaoyo peut activer sa caméra et surveiller vos parents âgés à la maison. Il peut aussi prendre la température et rappeler l'heure à laquelle il faut prendre ses médicaments.
Les couacs à la bourse et la météo n'ont pas de secret pour Xiaoyo.
Le temps sera nuageux entre 10 et 19 degrés à Pékin.
Aujourd'hui, un quart de tous les robots produits sur la planète se vendent en Chine. Dans les usines aussi, la révolution est en marche. Zhang Wuxiang, professeur à l'Institut de la robotique de l'Université Beihang.
Nous avons besoin de robots pour combler notre manque de main-d'œuvre. Aujourd'hui, les ouvriers répètent toujours le même geste pour fabriquer une pièce. Demain, ils seront remplacés par des robots et cela baissera les coûts de la fabrication.
Le potentiel est énorme car avec 36 robots pour 10 000 employés, la Chine fait encore pâle figure à côté de la Corée du Sud qui compte déjà 478, suivi par le Japon et l'Allemagne. Mais ce qui tracasse Pékin, 70% des robots sont fabriqués à l'étranger.
Actuellement, 4 entreprises étrangères dominent le marché chinois. Nos robots ne sont pas mauvais, mais les modèles étrangers sont encore meilleurs. Le gouvernement soutient nos recherches, car notre objectif est de devenir le numéro 1 de la robotique.
Quitte à racheter le savoir-faire à l'étranger, comme l'a fait le groupe Midea qui vient de prendre les rênes chez KUKA, le fleuron de la robotique allemande. Pendant ce temps, le petit Xiaoyo, lui, a déjà appris quelques mots d'anglais. Avant la fin de cette année, il fera son entrée sur le marché anglophone.
Have a nice day.
Ah, je suis fatigué. Ça vous a plu?
C'était un reportage signé Heike Schmidt à Pékin. Jean Tournou, dépendance chinoise à l'égard de l'extérieur, elle vous faisait sourire pendant la diffusion du reportage?
Non, c'est surtout le fait que, à travers ce reportage, on a l'impression que les Chinois ont complètement démystifié le robot. En d'autres termes, il remplit bien les fonctions qu'on attend de lui. C'est un outil informatif avec le petit robot boule, ou c'est un outil productif quand il est dans l'usine. Donc voilà, il est à sa place à côté de nous. Et que les Chinois aient une forte volonté de construire une industrie de la robotique, ben, ça va sans dire, puisque c'est le premier atelier du monde. Donc forcément, ils ont envie d'avoir des technologies pour améliorer leur performance.
Mundi Rachidi,
votre reportage montre que les robots sont un outil maintenant qui est flexible et on peut l'adapter à différents types de besoins. Et ça peut faire penser à un espoir énorme dans le monde, c'est-à-dire à nous, tous nos interlocuteurs qui nous écoutent un peu partout dans le monde. Ce dont on est en train de parler n'est plus accessible qu'aux pays riches qui en ont les moyens. Certes, bien sûr, il y a des politiques, comme on l'entend, en Allemagne, en Chine. Mais n'importe quelle entreprise maintenant peut se lancer. N'importe quelle entreprise au fin fond de l'Afrique peut décider de se lancer sur un robot avec un retour d'investissement sur un an pour augmenter sa productivité.
Sur un an,
tout à fait, pour augmenter sa productivité et avoir plus de production, plus de demandes des consommateurs, être aussi compétitif qu'une entreprise en Chine, aux États-Unis ou au Brésil. C'est une chance énorme et c'est en ce sens aussi que c'est une nouvelle révolution.
Pierre-Noël Giraud, vous pensez que les robots, c'est une chance pour le développement d'un continent comme l'Afrique ?
Oui. D'abord, je voudrais surtout sur cette antenne souligner que le véritable enjeu, c'est l'Afrique, hein, puisque l'Afrique, c'est 2,5 milliards d'habitants en 2050 sur 9, et en 2100, c'est 4,5 milliards d'habitants sur 11 dans la projection centrale de l'ONU. Bon, donc, or l'Afrique, comme vous l'avez dit, elle a d'abord besoin de faire sa révolution agricole, de routes, et de satisfaire des besoins, disons, qu'a satisfait le Fordisme dans les 30 Glorieuses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça va pas se faire avec des usines Fordistes. Ça va se faire avec des usines disposant des technologies actuelles. Et ça, aussi bien dans l'agriculture, par exemple. Le paysan africain aujourd'hui, même illettré, il a un téléphone portable, et à travers ce téléphone, on peut l'aider dans ses cultures. Et des robots peuvent, par exemple, s'il fait une photographie d'une plante malade, lui renvoyer des indications sur ce qu'il peut faire, etc. Donc c'est ça qui est absolument fascinant, c'est que l'Afrique a besoin d'une industrialisation de base, enfin d'une industrialisation pour servir des besoins de base, et c'est un enjeu considérable, mais les nouvelles technologies vont pouvoir l'aider à le faire avec peut-être moins de sueur et de larmes que nous avons connues, nous.
Eh bien, le robot avenir du développement de l'Afrique, c'est le mot d'espoir et le mot de fin de cette émission. Merci à vous trois, Moundi Rachidi, Jean Tournou, Pierre-Noël Giraud, de nous avoir fait voyager dans ce monde de la robotique. Guillaume Munier était au pupitre technique, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. La biographie.